d'animer cette rencontre qui clôt un peu ce week-end fou de la foire du livre de Brive, avec un habitué, le régional de l'étape, la star même, on pourrait dire. Christian Signol, bonjour.
Bonjour.
On ne vous présente plus, vous êtes un des romanciers préférés des Français, vous êtes un enfant du Quercy, le roi de la saga populaire, les rivières de l'espérance notamment. Vous revenez avec un roman dans la lignée de ce que vous avez déjà fait, on va en discuter un peu, Là où vivent les hommes, chez Albin Michel, l'histoire d'une reconstruction et l'histoire aussi d'une ode à la nature et à ce qu'on peut y retrouver, et redécouvrir de la vie qu'on a peut-être oublié ou qu'on a peut-être perdu. Revenir rapidement sur l'histoire, je pense. Est-ce que vous pourriez, ou peut-être la jeunesse dans un premier temps, comment il est né ce livre, ce roman, cette envie de raconter cette histoire ?
En fait, c'est le roman d'un jeune homme de la trentaine environ qui quitte Paris à la suite d'un drame familial, qui roule toute la nuit sans activer son GPS et qui se retrouve le lendemain matin au bord d'un cos désert, enfin qu'il croit désert, parce qu'il y rencontre là un berger et sa patronne, deux êtres extraordinaires qui vont le réconcilier avec la vie. C'est le sujet principal du livre.
Et qui est Étienne ? Comment le décrire ? À quel moment de sa vie il est ?
On peut dire que c'est une fable contemporaine, parce que Étienne, il travaille dans une banque, il quitte la ville suite à un drame familial, mais il aurait pu aussi bien quitter la ville après un drame dû au Covid. Donc c'est en ce sens que c'est peut-être un livre d'aujourd'hui. Et donc il quitte la ville pour retrouver les vraies richesses, comme aurait dit Jean Giono, c'est-à-dire le contact avec le monde naturel qu'on a perdu dans les grandes métropoles aujourd'hui, où les hommes ont retrouvé, pour la plupart, des réflexes animaux de survie. Parce que la vie dans les grandes métropoles aujourd'hui est devenue très, 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 très difficile.
Oui, c'est de la vie plus que de la survie.
Exactement. La violence quotidienne, le nihilisme spirituel, les passions noires, l'incapacité à lire le monde naturel, tout ce qui fait qu'aujourd'hui, la vie est devenue extrêmement difficile. Et que les gens, d'ailleurs, ont tendance à la quitter, si je comprends bien, parce que suite au Covid, par exemple, ils ont beaucoup quitté les villes, et actuellement, en Limousin, si j'en crois l'actualité, il n'y aurait plus aucune résidence secondaire à vendre.
Ça va être la lutte. Il y rencontre donc un berger, notamment Achille. Présentez-nous un peu ce personnage et qu'est-ce qu'il incarne dans votre roman ?
Il se dit aussi berger d'étoiles, c'est-à-dire c'est l'homme un berger de la contemplation et surtout de la modération et de la sobriété, des valeurs qui n'ont plus cours aujourd'hui, en tout cas pas dans les métropoles, mais qui encore subsistent de temps en temps, quelque part, dans les lieux un peu perdus, isolés, qui n'ont pas été, si je puis dire, contaminés par la civilisation contemporaine.
Berger, s'il y a quelque chose d'éminemment littéraire, c'est le
biblique.
Oui, biblique déjà, forcément. Et littéraire aussi dans le sens où c'est peut-être celui qui a le plus accès à la nature, à la vraie vérité des choses et de ce qui nous entoure.
Oui, parce que je pense comme Michel Serres que le plus grand drame du 19e siècle, ça a été que l'humanité a rompu ses liens avec le monde naturel et qu'ainsi elle avait rompu l'équilibre qui pendant des siècles avait assuré sa permanence. Ce qui fait qu'aujourd'hui on vit un déséquilibre qui rend les hommes, pour la plupart, assez malheureux, toujours dans ces conditions extrêmement difficiles. D'ailleurs, Michel Serres a pu écrire, il n'y a pas longtemps, que le néolithique s'était achevé en l'an 2000. Ce que je crois vraiment, c'est-à-dire le néolithique, c'est-à-dire le rapport avec le monde naturel.
Et c'est d'ailleurs ce roman aussi l'occasion de peut-être remettre un coup de projecteur sur un métier qui est en train de peut-être progressivement disparaître, de peut-être parler de ces gens qui vivent au contact de la nature et qui ont beaucoup de choses à nous apprendre.
Beaucoup de choses à nous apprendre, mais ils sont de plus en plus rares. Sauf que, quand même, on peut espérer que grâce aux moyens de communication modernes, et notamment le télétravail, les ordinateurs, etc., peut-être cette tendance suicidaire qui a été d'aller s'agglutiner dans les villes de béton et d'indifférence, on va peut-être pouvoir revenir vers ce monde naturel, justement, à distance. Non pas dans les conditions qu'on a connues, par exemple, en 1968, dans ce... ce départ là, massif vers les campagnes sans raison apparente et surtout sans raison de pouvoir travailler économiquement, de survivre économiquement, aujourd'hui ça paraît être possible D'ailleurs, le télétravail demeure encore dans les... Malgré, à la fin du confinement, il demeure encore dans les... Par exemple, chez Albin Michel, hein, maison d'édition, les gens sont toujours en télétravail, enfin, au moins à temps partiel, quoi.
Et ça, c'est quelque chose que vous voyez comme une bonne dynamique, quelque chose qui peut peut-être nous faire évoluer vers d'autres mentalités, dans d'autres sens ?
Oui, pour moi, c'est une raison d'espoir en l'avenir. Hein, c'est-à-dire que peut-être que cette tendance, encore une fois, à mon avis, suicidaire, peut un jour s'inverser et permettre à des gens de vivre plus heureux dans... Parce qu'on sait bien que ce sont pas, c'est pas la morale et les idées qui gouvernent le monde. Ce sont des lois économiques dont le profit est monnaie permanente. Donc il est quand même difficile de vivre des expériences de sagesse, de sobriété ou de modération dans la civilisation contemporaine, hélas.
Parce qu'à travers la ville, il y a aussi l'idée de vouloir domestiquer la nature, de vouloir peut-être un rapport de force, de domination de l'homme sur la nature. Ça, c'est quelque chose qui vous choque, qui vous perturbe ?
De domination, non. D'accord avec la nature, mais pas de domination. Hein. C'est-à-dire que moi, je vis beaucoup dans le monde naturel, mais jamais dans un état d'esprit de domination. Au contraire, c'est plutôt dans une philosophie de partage et d'accord, tout simplement.
Comment... au fil des œuvres, vous évertuez à essayer de raconter la nature. Comment on met la nature en mots, essayer de raconter sa beauté ? Ça doit être un processus d'écriture qui prend du temps, qui...
Non, pas pour moi, parce que ça n'a jamais été difficile pour moi, puisque je suis né dans ce milieu-là. Donc, si vous voulez, il m'est naturel. Et donc, j'ai aucune difficulté à écrire ça. Mais c'est vrai que j'utilise beaucoup, dans mes romans, les saisons, les différentes saisons. Parce que ça permet à la fois changer de paysage, de couleur, etc., etc. Donc ça revivifie l'écriture, les chapitres, si vous voulez. Et donc pour moi, c'est très pratique et ça ne pose aucune difficulté.
Est-ce que vous-même, vous êtes du genre à vous embarquer dans des pérégrinations dans la nature pour peut-être aller chercher des couleurs, des espaces, des choses que vous avez envie d'écrire plus tard ?
Moi, je travaille, j'écris un peu le matin, mais chaque après-midi, d'une manière générale, je vais vers ce monde-là qui m'est cher et qui est proche de moi, proche de Brive. J'habite Brive, mais j'ai une maison de campagne à 20 km de Brive. Et donc, chaque jour, si je peux, je vais renouer ce contact avec ce monde parce qu'il est, pour moi, essentiel, très précieux et essentiel.
Vous avez parlé de saisons. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que le roman se déroule sur un an, un cycle de quatre saisons.
Mais c'est pas la première fois. Hein. C'est pas dans le premier.
C'est assez récurrent. Oui. C'est une manière peut-être d'épouser justement les lois de la nature et la manière dont la nature change au fil des saisons.
Oui, c'est une manière d'en être plus proche. Et encore une fois, c'est très pratique pour un romancier parce que ça permet de changer de couleur, de temps, et ça permet de renouveler un peu chaque fois le sujet, chaque jour.
Vous êtes un enfant de la région. En quoi cette région est nourrit votre littérature ? En quoi c'est l'enfance que vous avez passée là, la vie que vous menez actuellement ici, nourrit et infuse votre littérature ?
Mais quand on est dans un endroit qu'on a beaucoup aimé et qui nous a été précieux, il est très difficile de le quitter. En tout cas, pour moi, ça a été très difficile. Moi, j'ai des tas d'amis qui sont partis en faculté et qui sont partis, c'est-à-dire à Lyon, Paris, Limoges, ailleurs, des amis de lycée, tout simplement. Mais moi, non, moi, j'ai refusé de partir. Alors, ça n'a pas été facile, hein, au début, évidemment, parce que j'avais le projet, justement, de devenir romancier. Mais finalement, j'y suis parvenu après beaucoup d'efforts, parce que, vous savez, c'est très difficile, quand même, quand on habite en province, de faire publier un livre dans une maison d'édition. Et moi, il m'a fallu 10 ans, hein, 10 ans de refus de manuscrits, etc. Mais chaque jour, après un refus d'éditeur, je me remettais à écrire parce que je savais que tout ça m'était essentiel.
Et l'idée aussi que, comment dire, ces régions comme ici, etc., on a tendance à justement peut-être parfois les oublier à tort, alors que c'est peut-être elles qui ont peut-être un vrai sens de l'existence, en tout cas qui nous rappelle à tous qu'on s'est peut-être fourvoyé dans certains endroits.
Moi, je le pense, mais il ne faut pas le dire trop fort quand même. Parce que...
Ici, on a le droit, mais ne dites pas ça à Paris.
C'est vrai qu'il y a des milliers de gens qui travaillent en ville, mais ils ne l'ont pas choisi. Ils sont partis dans les villes. C'est la montagne de Jean Ferrat, par exemple. Ils sont partis dans les villes parce que le travail se trouvait dans les villes et plus dans les campagnes. Tout simplement, voilà pourquoi la plupart en souffrent. Et que dès qu'ils en ont l'occasion, ils reviennent vers ces campagnes qui leur sont indispensables, finalement, tout simplement.
Et dans ce cas-là, la littérature a forcément un rôle à jouer puisqu'elle crée des images, elle met en avant des situations, des endroits, des zones. Est-ce que vous aussi, derrière votre littérature, il y a cette envie de célébrer ces endroits et peut-être de leur donner plus de visibilité ?
Oui, plus de visibilité, parce que c'est vrai que la littérature d'aujourd'hui, c'est une littérature urbaine, essentiellement. Hein, essentiellement, c'est-à-dire les parkings souterrains, les grands magasins, etc. Et puis tout ce qui se passe, encore une fois, dans les grandes métropoles. Mais comment dire, célébrer... Je crois que les gens vont les retrouver maintenant naturellement, parce qu'ils en ont beaucoup souffert. Vous savez, pendant le confinement, vivre dans un appartement dans une grande ville, ça devait pas être facile. D'où leur fuite éperdue dès que les portes se sont ouvertes.
Et là où, par exemple, dans la littérature américaine, on parle de natural writing, qui a su conserver justement et qui est encore très, très, comment dire, qui a beaucoup de succès, qui est très vivace et qui, où c'est des écrivains qui célèbrent la nature. Est-ce qu'on n'a pas perdu un peu ça en France ?
En France et en Europe, mais pas aux États-Unis et pas en Angleterre. Notamment, bon, les écrivains américains que je connais bien, moi, Jim Harrison, Norman MacLean, etc. Je les pratique couramment et j'ai un ami éditeur. Gallmeister qui publie que des romans américains, et c'est vrai que aux États-Unis, le natural writing permet de célébrer, enfin, de pratiquer ce genre de littérature qui ailleurs et notamment ici chez nous est pas très bien portée, parce que les écrivains qu'on catalogue régionalistes en province, en réalité, ce sont en général des journalistes qui stigmatisent tous ceux qui ont un territoire sous les pieds, en écrivant, en oubliant un peu vite, effectivement, que les grands écrivains anglais et américains sont avant tout des écrivains régionalistes. Vous avez Faulkner, à la fin de sa vie, il était considéré comme un écrivain paysan. Et Jim Harrison, à New York, il n'était pas du tout connu. Parce que, encore une fois, dans les grandes villes, la littérature, c'est autre chose. Mais eux ont su garder ce contact quand même avec. Et en France, c'était, dans les années 30-40, cette littérature était bien portée. C'était Maurice Genevoix à l'Académie française, c'était Jean Giono, etc. Des gens qui étaient mieux considérés qu'aujourd'hui. Moi, c'est vrai qu'on me catalogue quelquefois écrivain régionaliste, sauf que mes livres sont traduits en 15 langues, ce qui fait quand même une grande région, n'est-ce pas ?
Vous citez d'ailleurs, vous en avez déjà parlé deux fois là, mais j'ai remarqué que vous parlez beaucoup de Jean Giono. Quel rapport vous entretenez avec lui ? En quoi il vous inspire ?
Ben parce qu'il a toujours écrit sur ce monde-là, sur le monde naturel, et qu'il en a fait quand même une littérature très reconnue, non seulement en France, mais à l'étranger énormément. Hein. Et puis, il n'a jamais quitté finalement Manosque, où je suis allé d'ailleurs, dans son bureau, où j'ai rencontré... sa femme, Élise, qui n'était pas décédée encore à l'époque. Et je voudrais pouvoir dire comme lui, à la fin de ma vie, il disait « Ça fait 50 ans que je suis assis dans mon fauteuil et c'est moi qui ai raison.
» Est-ce qu'il y a d'autres écrivains comme ça qui sont un peu au-dessus de votre épaule quand vous écrivez, des gens à qui vous vous référez ?
Oui, les écrivains américains. Jim Harrison en particulier. Faulkner, mais pour d'autres raisons, hein, des raisons vraiment, vraiment littéraires. Et je ne lis que les romanciers américains. Et les romanciers publiés par mon ami Gallmeister, que je connais très très bien, et parce que c'est dans cette littérature-là que je me reconnais le mieux, parce que encore une fois, ce sont des gens qui ont gardé le contact avec ce monde-là. Jim Harrison, il explique son succès en France alors qu'il n'en avait pas du tout à New York, par le fait de dire dans mes livres, il y a de l'air, il y a de l'oxygène. Il dit ça par comparaison avec, évidemment, clairement, New York et Los Angeles, etc.
Pour revenir un peu au livre, peut-être, qu'est-ce que Étienne va trouver dans cette nouvelle vie qu'il va vivre, puisqu'on a parlé de romans de la reconstruction, de la résilience, etc. Racontez-nous un peu comment ça va se dérouler pour lui au contact d'Achille et de Louise.
Il va trouver des raisons de vivre... par exemple, Achille se dit aussi non seulement berger de moutons, mais berger d'étoiles. C'est-à-dire qu'il va trouver une vie faite de contemplation, de modestie, de modération et de sobriété, finalement. Tout ce qui n'existe pas ailleurs et tout ce qu'il n'a jamais connu. Et pour lui, c'est une découverte qui fait que à la fin de livre. Donc, il décide non pas d'aller vivre dans ces lieux maintenant complètement désertés et déshérités, mais à proximité, dans un endroit où il est encore possible de vivre. Par exemple, je crois que c'est à Montpellier, oui, dans le livre, mais à une heure simplement de voiture de ce lieu magique où il a connu Achille et sa patronne, Louise, décédée d'ailleurs d'un infarctus pendant le séjour d'Étienne.
Et il y a cette idée aussi, de, je trouve, qui est importante dans ce roman particulièrement, mais aussi dans d'autres de vos romans, c'est la question du temps. La vitesse à laquelle le temps s'écoule, à laquelle on envisage le temps, notamment dans l'opposition que vous faites entre campagne et ville. Les villes, c'est l'immédiateté, la rapidité, tout avoir vite. Est-ce que, au final, ces territoires qui sont encore vierges d'une présence massive des hommes prennent encore le temps d'apprécier la vie, de savourer des moments ?
Oui, par la force des choses, parce que l'activité humaine dans ces zones-là se déroule avec une vitesse moindre, effectivement, et le temps n'est plus le même, n'est pas du tout le même. C'est-à-dire qu'il passe beaucoup plus lentement, et les gens sont beaucoup plus attentifs aux nuages qui passent, aux saisons, aux feuilles des arbres, etc. Parce que la vitesse n'est plus pas du tout la même qu'encore une fois dans les grandes villes, où c'est l'affolement général. Vous savez, moi, quand je vais à Paris, hein, je vois de ces choses. Hein, je vois des gens qui courent tous les matins avec des enfants dans des poussettes. Je vois des mendiants qui sont au milieu du trottoir avec les bras en croix, etc. etc. Non, mais la vitesse à laquelle nous vivons maintenant dans les grandes villes, et surtout depuis en 2000, hein, il y a eu, à mon avis, quelque chose qui s'est passé, là, et la vitesse s'est accélérée depuis l'an 2000. C'était déjà vrai avant, dans les villes, mais depuis l'an 2000, ça s'est encore accéléré, à mon avis.
Et ce qui fait qu'il y a un vrai rythme à part dans vos livres, on sent quelque chose de paisible, quelque chose qui est loin de ce qu'on peut lire la plupart du temps, qui peut être soit de l'autofiction tourmentée, soit du thriller avec des tueurs en série. C'est vraiment on est dans une littérature qui est paisible et qui prend le temps de s'installer. C'est vraiment quelque chose qui vous tenait à cœur ?
Oui, et c'est ce qui permet aussi de trouver et de garder beaucoup de lecteurs aujourd'hui, parce que les gens ont besoin de ça. Ils me le disent, là. Je les vois, moi, hein, pendant la foire de Brive. Là. Ils me disent qu'ils ont besoin de sérénité et de calme et un peu plus de modération dans tout ce qui se passe. Et ils me disent que mes livres leur font du bien. C'est déjà pas mal. Donc je peux considérer que j'écris pour faire du bien aux gens, ce qui n'est pas rien.
Oui, c'est une question que j'allais vous poser. Est-ce que c'est important pour vous d'être un peu un écrivain qui est aussi, pas consolateur, mais qui apporte, oui, qui apporte des bonnes choses à ceux qui le lisent ?
Mais c'est ça, je suis considéré comme un écrivain consolateur, c'est-à-dire qui fait du bien aux gens, parce qu'ils en ont beaucoup, très, beaucoup besoin aujourd'hui. Et je les entends, effectivement. On a vécu des périodes difficiles, là, avec le confinement et tout ça. Et ils ont continué à lire mes livres, encore une fois. Ils m'ont dit que ça leur avait été d'un grand secours.
Et ils consolent parce que, aussi, vous faites peut-être vivre une époque qu'on a sans doute perdue. Est-ce que vous vous considérez comme un romancier un peu nostalgique aussi d'une époque perdue, d'un temps perdu ?
Passéiste, vous voulez dire ? Non. On m'a longtemps été accusé de passéiste, mais c'est pas ça du tout, là, dans ce roman-là, si vous voulez. Au contraire, il me semble que j'indique une voie pour l'avenir, c'est-à-dire le télétravail, l'ordinateur, etc., le travail à distance. C'est pas du tout la vie d'avant. Au contraire, pour moi, c'est une voie nouvelle et une voie d'espoir.
Peut-être un petit mot sur la foire de Brive. Vous êtes quand même un habitué, même la star, on pourrait dire. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette manifestation ? Qu'est-ce que ça représente pour vous ?
Ce qui est important dans ce genre de manifestation, c'est le contact avec les lecteurs. Parce que un écrivain, il écrit toujours dans la solitude d'un bureau. Et que donc, à un moment donné, il faut qu'il y ait contact, rencontre, je dirais plutôt, entre l'écrivain et ses lecteurs. Sinon, ça n'aurait pas beaucoup de sens, ça n'aurait aucune signification. C'est en ce sens-là que c'est très important. Parce qu'on a enfin un écho, alors que quand on écrit, on n'a pas d'écho. C'est ce qui rend d'ailleurs l'écriture si difficile.
Et qu'est-ce qui différencie la Foire du Livre de Brive de d'autres salons littéraires, peut-être plus classiques ?
Par exemple, je suis allé à Nancy, ailleurs, à Paris, au Salon de Paris, etc. Le contact à Brive entre les lecteurs et les écrivains est beaucoup plus chaleureux, parce qu'à l'origine, ça se passait dans le marché. Et donc, là, effectivement, le contact n'est pas le même, quoi. Il est moins, comment dire, il est moins intellectuel, il est plus naturel et il est beaucoup plus direct. La différence essentielle, c'est ça.
Avec l'idée de foire que je trouve intéressante et qui colle un peu avec votre littérature, c'est l'idée aussi de célébrer des choses qui sont authentiques, une forme de célébration aussi. Est-ce que ça, c'est important pour vous à travers la littérature? C'est aussi quelque chose qui doit se fêter?
Oui, et puis je crois que la littérature est une lutte perpétuelle contre l'oubli et le temps. Donc ça permet de figer les choses définitivement pour un écrivain. C'est-à-dire de les rendre un peu immortelles ou éternelles, quoi. Ça permet de revenir en arrière, mais en même temps, de faire en sorte que tout ce qui a été vécu ne soit pas perdu. Et c'est un peu pour ça que j'écris aussi. Pour ne pas perdre ce qui a été, ce qui m'a été précieux au cours de ma vie et au cours de mon enfance. Mais je pense que pour beaucoup d'écrivains, c'est la même chose. Il s'agit d'arrêter le temps. Voilà. Je l'ai souvent vu écrit par des écrivains qui n'écrivent pas les mêmes choses que moi. Mais enfin, d'une manière générale, la motivation est souvent la même.
Et comment vous écrivez, vous? Est-ce que c'est quelque chose qui découle naturellement, qui est assez facile, ou c'est plutôt des choses qui sont dures, qui mettent un peu de temps à se décanter?
Non, c'est plus difficile. Quand je vais dans les lycées et collèges, souvent les élèves me demandent si je crois à l'inspiration. Je leur dis non, je crois à la transpiration, c'est-à-dire au travail quotidien, sinon on n'avance pas. Donc moi j'écris le matin, une heure ou deux, toujours, jamais plus, parce qu'après... tendance à disjoncter un peu, mais je m'arrête toujours au milieu d'une phrase, de manière à pouvoir recommencer plus facilement le lendemain. Mais ça, c'est une manière de faire que connaissent bien les écrivains, au milieu d'une phrase. Sinon, le lendemain, c'est beaucoup plus difficile. Donc j'écris une heure ou deux heures par jour, mais pas plus, mais c'est beaucoup. Parce que ça fait une ou deux pages par jour, et deux pages par jour, c'est 60 en un mois, et 250 en quatre mois. Bon, après, j'écris, je réécris pendant six mois. Toujours, pour travailler le texte, etc. Mais c'est vrai que deux pages par jour, c'est beaucoup et ça revient très très vite. Et c'est très difficile.
Et chaque jour, vous écrivez un peu, ou il y a des moments où vous avez besoin de couper de ce rapport à l'écriture?
Je coupe en été, quand c'est au moment des vacances. Mais sinon, il ne faut pas trop prendre de distance avec ce qu'on écrit, parce qu'on en sort. Et ensuite, il faut encore plus de temps pour revenir à l'intérieur, retrouver les personnages, retrouver les psychologies des personnages. Voilà. Et donc, c'est du temps perdu, finalement. On croit gagner du temps, et puis finalement, on en perd. Parce qu'il faut rester connecté à la psychologie des personnages, plus souvent.
Puis, dernière question. On parle souvent de littérature populaire, de saga populaire. Vous essayez aussi de rendre hommage à travers votre littérature aux gens simples, authentiques. Est-ce que c'est peut-être ça aussi le sel de votre littérature?
Oui, mais la littérature populaire, c'est Victor Hugo aussi. Hein. Ce sont des mots passants.
On a fait un gros mot aujourd'hui,
etc.
Alors.
Des grands écrivains. Hein. C'est pas tellement ma motivation. Non, cette écriture, pour moi, elle est naturelle. Et puis j'écris sur ce que je sais, sur ce que je connais, c'est-à-dire les gens que je côtoie. Mais encore une fois, les plus grands écrivains ont écrit ce genre de littérature. Je parlais de Victor Hugo, mais il y en a énormément. Hein. Bon, pas la littérature du XVIIIe siècle, parce que c'était la bourgeoisie, un peu avec Flaubert et Stendhal, etc. Mais depuis, quand même, regardez, que ce soit Genevoix, au début du siècle dernier, ou des gens comme ça, ils écrivaient sur des gens simples. Et c'était une littérature qui était beaucoup mieux portée qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est rentré un peu dans un intellectualisme avec à Paris des ricanements ininterrompus, n'est-ce pas? Et puis encore une fois, une espèce de narcissisme maladif qui fait que on a tendance un peu à mésestimer ce qui se fait ailleurs.
Merci Christian Signol. On a peut-être le temps de prendre une question si quelqu'un a envie de se porter volontaire. Et puis je vous remercie en tout cas.
Merci à vous.
Est-ce qu'on a une question par hasard? Il y en a pas. Bah, si on n'en a pas, on va
tout a été dit.
Ça veut dire qu'on a été bon. Merci beaucoup en tout
vous
cas. Merci.
Au revoir. Merci.